7h27, le nouveau directeur de la santé publique, Dr. Luc Boileau, se donne jusqu'à jeudi pour décider si les élèves du primaire et du secondaire vont retourner en présentiel, donc à l'école. Hier, il a dit « j'ai besoin d'un peu de temps ». Par contre, il y a beaucoup de parents, d'enseignants, de membres de direction d'école qui, là, trouvent que c'est un délai, je dirais, qui dérange, un délai qui est irritant. L'école ne peut pas toujours se revirer de bord à la dernière minute. Les parents ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe lundi. Et là, vous avez tout ce débat dans la société. Est-ce qu'on garde les enfants à la maison en téléenseignement? Pour des parents, c'est un défi colossal parce qu'eux-mêmes sont en télétravail. D'un autre côté, on se dit, est-ce que les écoles du Québec sont sécuritaires pour recevoir les enfants? Pour contribuer à cette discussion ce matin, notre invité, Dr. Jean-François Chicoine, qui est pédiatre. Dr. Chicoine, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, t'en penses quoi? Est-ce qu'on doit rouvrir les écoles dans ce contexte-là où, disons, on a un variant qui voyage rapidement?
Oui, il faut ouvrir les écoles. Il faut aussi pouvoir donner leur juste aux professeurs, aux écoles, aux parents. Ils attendent depuis longtemps et je pense qu'on a besoin d'une situation claire. La situation ne sera jamais parfaite. C'est sûr que le microbiologiste, infectiologue en moi, que je suis pas, mais qui appartient en fait à l'âme de tous les pédiatres, dirait bon, il faut attendre. Sauf que clairement, les enfants ont besoin d'aller à l'école. Le Québec, à travers les dernières années, a ouvert ses écoles beaucoup plus que l'Ontario, deux fois plus. C'était une bonne chose. On a remarqué à quel point les enfants, les adolescents, c'est plus facile à mesurer sur les adolescents, souffraient de l'absence d'école au niveau de l'anxiété, de la dépression, de la consommation de jeux vidéo, et d'écran, c'est absolument incroyable. Également, au niveau de la santé familiale, on a des inquiétudes, soit la violence, le dépistage des problématiques de maltraitance ou de négligence. Les écoles qui ont réouvert en septembre, octobre, ont donné un gros putsch de santé, de vie, de vitalité, puis d'espoir à énormément d'enfants et de familles. Donc, on voudrait, les pédiatres, c'est pour ça qu'on a commencé à s'exprimer très ouvertement ce matin, on voudrait et on veut et on que les écoles ouvrent lundi prochain.
Mais là, Jean-François, là, j'entends plein d'auditeurs se poser des questions en disant « ouais, mais c'est bien beau ». Il y a déjà des écoles, par exemple, pour des classes spécialisées qui ont ouvert leurs portes. Il y a déjà des classes qui ont été refermées parce qu'il y a eu des cas. Mm-hmm. Ça va être la valse de classes, d'écoles qui ferment, de quarantaine. Des parents vont se retrouver avec des enfants qui reviennent à la maison. Puis des profs qui vont peut-être être absents. Il n'y a pas de solution parfaite, mais pourquoi leur retour est si important que ça? Tu as décrit un certain nombre de constats, mais quand on dit tout le temps que la santé publique, c'est l'équilibre, là. Pourquoi c'est si important dans le contexte actuel de les retourner en classe?
C'est parce que on a aussi maintenant des données claires sur les ados qui vont mal, je l'ai dit, mais aussi sur le fait que le télétravail et tout, c'est pas quelque chose qui, au niveau scolaire, va donner le même rendement que l'école en présentiel. On voit que même les étudiants du secondaire qui arrivent au cégep sont pas aussi préparés qu'avant, et ça fait 2 ans, il y a une question de durée, là, ça fait 2 ans que cette génération-là est pas scolarisée tout à fait, a pas d'activité sportive comme les autres, et surtout pas d'activité sociale. Comme pédiatre, moi, je me demande vraiment si on va pouvoir trouver, ça va prendre des années, ça, des marqueurs qui font que, on a vu pendant 2 ou 3 ans des enfants ne pas jouer à kick-la-kick-anne, à ne pas être les uns avec les autres dans un party, à moins voir leur famille. Il y a des éléments sociologiques importants dont tu vas pouvoir tenir compte. À Sainte-Justine, il y a l'Observatoire des enfants qui essaie de mesurer ces effets-là. On devrait avoir des réponses en 23, mais là, on est en 22, et ça urge, puis il faut s'occuper de la vie au présent. C'est plus difficile de mesurer ces effets-là sur les enfants que de mesurer le nombre de cas dans une école. Et pour faire du chemin sur ce que tu viens de dire, ben les tendances, que ce soit au Québec et même la Société canadienne de pédiatrie devrait pouvoir annoncer ça là, sous peu, c'est de ne plus dépister à outrance les enfants. Ce qui est important, c'est de protéger les professeurs au maximum. Ils ont à avoir 3 doses, ils ont à pouvoir porter un masque. S'il y en a qui veulent porter des N95, je leur souhaite bonne chance. Je pense que c'est surtout important pour ceux qui sont en éducation spécialisée, qui sont collés comme des travailleurs de la santé sur les patients. Et je pense qu'ils doivent pas attendre nécessairement de meilleures conditions de ventilation dans les écoles. Je pense qu'il faut pouvoir y aller et il faut que les professeurs puissent avoir accès à des dépistages. Eux, ils devraient continuer d'avoir des dépistages avec le PCR ou même les tests rapides. Mais les enfants malades, là, moi, j'ai un peu plus d'entendre le chiffrier. Les enfants à Sainte-Justine ou partout, ils sont pas plus malades en général que d'habitude, que dans d'autres épidémies de grippe, de bronchiolite ou d'autres, de gastro-entérite, on est très, très content que les enfants puissent être porteurs, enfin, d'une bonne nouvelle. Ils le sont depuis 2 ans, puis là, ils ont assez attendu. Les enfants malades dans les écoles, la nouvelle tendance, c'est de passer justement de la pandémie à l'endémie. Ça va être de retirer ceux qui sont malades. En plus, s'il y a des tests, on fait un test. S'il n'y a pas de test, on ne fait pas de test. Et de laisser les autres là, même s'ils ont été en contact. Ça va être un grand changement. Parce qu'on sait qu'avec l'Omicron, avec le Delta, il y avait 1 ou 2% d'enfants qui étaient asymptomatiques. Les autres avaient au moins un peu de toux, de rhume. L'Omicron, ils sont 30% à ne pas développer de symptômes après avoir été en contact. Donc, si vous avez un collègue, un camarade de classe qui est positif, vous avez au moins facilement, en plus des enfants qui ont déjà fait l'Omicron ou le Delta, mais vous avez au moins le tiers ou la moitié de la classe qui a probablement déjà eu sa contagion. Donc, le bal des fermetures et des ouvertures, c'est ça qu'on trouve souffrant pour le système scolaire.
Mais ce que tu me dis, pour que ça soit bien clair pour les auditeurs, tu dis protégeons les profs avec la vaccination, évidemment, puis avec les équipements de protection adéquats.
Oui, les familles des enfants, les parents des enfants aussi, là. Mais les enfants, on les laisse aller, ils sont pas malades, là.
OK, puis ça veut dire que qu'ils soient à l'école, puis s'ils ont des symptômes, mais comme si c'était une grippe...
S'ils ont des symptômes, ils sont retirés quelques jours, 5 jours, là, s'ils sont malades, puis après ça, ils retournent à l'école. Mais les autres, le reste de l'école, le reste de la classe, on les laisse là, là. Eh oui, bon, Paul Arcand qui parle plus.
Non, mais c'est parce que j'entends mes auditeurs à l'autre bout qui disent, ben voyons donc, là, t'es
non,
peu,
on
là.
Va les laisser là, pourquoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrive? Écoute, on a d'habitude, nous, par exemple, à Sainte-Justine, des centaines d'infections respiratoires hospitalisées. On n'en est pas là avec l'Omicron. L'importance de l'Omicron, c'est l'enfant comme porteur de virus pour des gens à risque. C'est tout. Pour les enfants, c'est sûr qu'il y a parfois chez des enfants avec des conditions tout à fait spéciales, déficit immunitaire, anémie falciforme, etc., un certain nombre d'enfants qui pourraient avoir...
Mais tu sais, l'image qu'on a, là, c'est l'enfant qui est mort, je pense, avant Noël à l'hôpital Sainte-Justine.
Oui.
Tu sais, puis là, on dit, boy, on va-t-il exposer les enfants? T'entends des nouvelles aux États-Unis où le nombre de...
L'enfant qui est mort, c'est très personnel ce que je dis, là. L'enfant qui est mort, puis l'adulte qui est mort, c'est qui? Parce que moi, là, le chiffrier d'enfants malades et puis d'hospitalisés puis de soins intensifs, je trouve ça, j'en ai un peu assez parce que je voudrais savoir c'est qui. Par exemple, je pense que c'est hyper important de donner le nombre d'hospitalisations puis d'hospitalisations aux soins intensifs. Je pense que c'est important parce que c'est le seul pilier éthique qu'on peut réanimer pour une société un peu en paresse face à la vaccination. Mais c'est important de dire le nombre de gens qui avaient des conditions à risque importantes, leur âge et puis aussi leur statut vaccinal surtout. Quand un enfant meurt, un adulte meurt et tout, moi je pense que c'est pas intéressant de le savoir si on sait pas s'il n'y avait pas des facteurs de risque comme on est habitué de le voir avec l'influenza, la grippe. La grippe, c'est une maladie mortelle, par exemple, pour énormément de personnes âgées, pour certains enfants à risque, mais ça fait partie d'un tout puis d'un contexte. ce qui occupe actuellement les hôpitaux pédiatriques, c'est le personnel malade, puis le manque de personnel, c'est pas les enfants. Les enfants hospitalisés pour la COVID ont la COVID, by the way, parce qu'ils ont été dépistés, ont la COVID parce que sont hospitalisés avec une COVID parce qu'ils ont une leucémie, une condition de base, qu'on les surveille un peu plus. Il y a juste le tiers de ces enfants-là qui sont hospitalisés pour 24-48 heures à cause de la COVID. Et c'est beaucoup moins de travail que des éclosions de bronchiolites. On en a eu une cet été, ou que d'autres formes d'épidémie chez les enfants. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver enfin à porter un message de normalité face à la vie. Une société peut pas être en adaptation, en stress et en survie tout le temps. Et quand on est en développement, on a une occasion où il y a des moments qui ne repasseront pas. Avoir 14, 15, 16 ans, ça ne repasse jamais dans une vie. Et je pense qu'il faut protéger ce moment-là. Nous ne sommes pas inquiets des enfants, les pédiatres. Et il n'y aurait que des enfants sur la planète, ça irait peut-être mieux, qu'actuellement, on pourrait vraiment ouvrir les écoutilles sans problème. La seule petite gêne qu'il faut se garder, c'est surtout pour notre nombre d'hospitalisations puis de soins intensifs. On est conscient de ça, les pédiatres, mais on dit très clairement qu'on ne peut plus attendre plus longtemps. On veut normaliser cette école-là, ce qui va nous permettre aussi d'observer les enfants qui viennent de familles plus complexes, de raviver un peu le dossier des tuteurs, d'avoir un regard sur leur scolarité, mais aussi sur leur vie en général, parce que l'ouverture de l'école, parce qu'on va probablement revenir là, dans quelques semaines, c'est aussi bientôt le parascolaire, puis les sports, et jusqu'à quel point on prive les enfants de leur enfance. Alors là, je pense que les enfants, ils ont apporté leur lot de parenthèses, et que on peut les renvoyer. S'ils attrapent la COVID, ben c'est pas grave. Parents, essayez d'avoir vos 3 doses selon votre âge. Il faut accélérer ça et il faut pouvoir protéger les professeurs dans une certaine mesure. Il y a aussi une forme de prise de risque qu'il faut que tous et chacun, comme individu, comme professionnel, une part de prise de risque qui fait partie de la vie, qui donne de la libido, qui donne le goût d'avancer. Actuellement, moi, ce que je vois, c'est des parents paralysés, anxieux, tristes, des enfants à qui je prescris comme jamais des anxiolytiques, des antidépresseurs. Il faut ramener la vie. La vie est souvent une solution qu'on oublie malheureusement quand on est dans une détresse microbiologique. Un microbe, ben ça c'est fait pour se partager, pour se rééduquer et pour peut-être nous donner effectivement des leçons de vie sur ce qu'on était dans notre système de santé, dans notre système scolaire et puis dans la culture et peut-être nous permettre de faire mieux la prochaine fois, ce qui n'empêche pas qu'il faut vivre tout de suite. Et comme groupe de pédiatres aujourd'hui, l'Association des pédiatres du Québec, ben on essaie de dire à tout le monde qu'on est très content que l'école puisse, on prend ça comme une bonne nouvelle, on en a besoin, qu'on puisse commencer la semaine prochaine, qu'on va être là pour les enfants qui sont malades, ils sont et puis on le fait facilement parce qu'on sent qu'on n'aura pas une énorme vague d'enfants très malades et qu'il faut surtout protéger les professeurs et les familles, leur donner leurs tests PCR et tout. Eux, on n'est pas inquiets pour eux, mais vraiment, vraiment pas du tout.
Jean-François, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, Paul. Merci.
Au revoir.
Puis bonne suite à tout le monde, puis bonne année.
Docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre, il y a une chose qui est certaine. Il faut que la décision arrive. Et là, je comprends que le docteur Boileau vient d'être nommé, là, mais il y a des directeurs d'école, j'ai des profs, puis des parents qui disent, là, on peut-tu avoir l'heure juste? Et là, vous avez entendu le docteur Chicoine qui lui dit, oui, il y en aura des enfants malades. Mais il faut protéger les profs, il faut protéger les adultes, les gens plus vulnérables, puis il faut se faire vacciner. Mais on ne peut pas les laisser comme ça dans des zones où les parents sont en télétravail eux-mêmes, puis en même temps, le téléenseignement, puis c'est... En tout cas, souhaitons que la décision arrive le plus vite possible. 7h41.